Bonsoir. Donc on va prendre la suite des avant-gardes. La semaine dernière, on avait évoqué le cubisme et on avait expliqué en quoi le cubisme c'était une rupture artistique. Et au-delà, j'avais montré que à partir de la leçon de Braque et à partir de la leçon de Picasso, d'autres peintres avaient dépassé le côté hermétique du cubisme. On avait vu que les œuvres de Braque et de Picasso, c'était des œuvres dans lesquelles l'espace et les formes étaient totalement déstructurés. On avait vu que c'était des œuvres où les tons de brun, de gris étaient omniprésents. Et finalement, ces œuvres perdaient une certaine visibilité, une certaine intelligibilité. Et il y a un certain nombre de peintres cubistes qui ont dépassé cette leçon-là. Je pense à Juan Gris, je pense à Fernand Léger, qu'on avait abordé brièvement la dernière fois. Ce qu'on avait vu aussi, c'est que le cubisme, c'était une étape pour beaucoup, qui vont après délaisser ce traitement de la forme et de la couleur, et qui vont se lancer vers l'abstraction. J'avais évoqué brièvement aussi Piet Mondrian, par exemple, aux Pays-Bas, qui a une période cubiste, et qui reprend tout le vocabulaire initié par Picasso et par Braque, et qui ensuite se dirige totalement vers l'abstraction. Bref, en tous les cas, la grande idée à retenir par rapport à ce cubisme, c'est que ça a été une véritable libération et une véritable révolution artistique et esthétique. J'avais abordé la semaine dernière cette œuvre-là, Nature morte à la chaise cannée de Pablo Picasso. Ce collage bouleverse l'idée même du travail artistique. Pourquoi ? Parce que Picasso intégrait dans cette œuvre-là des objets manufacturés, et notamment cette toile cirée qui évoquait donc une chaise cannée. Et donc finalement là, un bien manufacturé devenait œuvre d'art. Aujourd'hui, on va aborder Dada. Et on va voir que Dada va aller plus loin encore dans cette désacralisation de l'art, puisqu'avec Dada, tout devient œuvre d'art. Alors Dada, c'est un mouvement qui naît en réaction en fait à la Première Guerre mondiale. Et je citerai en ouverture Tristan Tzara, qui est un des grands protagonistes des dadaïstes. Et voici ce qu'il écrit à propos donc de la naissance du mouvement. Dada prenait l'offensive et attaquait le système du monde dans son intégrité, dans ses assises, car il le rendait solidaire de la bêtise humaine, de cette bêtise qui aboutissait à la destruction de l'homme par l'homme de ses biens matériels et spirituels. Aussi fûmes-nous désignés à prendre comme objet de nos attaques les fondements mêmes de la société, le langage en tant qu'agent de communication entre les individus et la logique qui en était le ciment. En fait, la Première Guerre mondiale va être un déclencheur. Cette Première Guerre mondiale, lorsqu'elle débute, la plupart des puissances européennes l'estiment courte. Et en fait, c'est un conflit qui va s'enliser, et c'est un conflit qui va être particulièrement meurtrier. Il y a cette nouveauté de la guerre de position dans les tranchées, les soldats sont livrés à n'être que de la chair humaine, et ça va profondément traumatiser ces artistes et ces intellectuels. Et surtout, ce qui va les traumatiser, c'est cette barbarie, cette absurdité qui vont opérer un renversement total des valeurs. Et désormais, les artistes vont jouer et se jouer de tout. Et l'art va cristalliser cette contestation. J'évoquerai Hugo Ball, je vais y revenir tout à l'heure, c'est lui aussi un des grands protagonistes du mouvement. Et Hugo Ball, par rapport à cette volonté donc de tout détruire et de tout renverser, écrit: les idéaux culturels et artistiques, pris comme programme de variété, c'est là notre façon de faire du candide contre l'époque. Tout le monde fait comme si de rien n'était. La boucherie s'amplifie et on s'accroche fermement au prestige de la magnificence européenne. On cherche à rendre l'impossible possible et, se servant du mensonge, on transforme la trahison faite à l'homme, l'exploitation abusive de l'âme et du corps des peuples, le massacre civilisé en un triomphe du génie européen. Donc l'art dada va vouloir se montrer provocateur, iconoclaste, voire carrément nihiliste. Et en fait, c'est toute une remise en question de l'ordre, de l'autorité. Et au-delà de ça, c'est une entorse tonitruante au mythe, au sacro-saint mythe de l'œuvre d'art et du beau. Le concept d'œuvre d'art avec les dadas va être totalement balayé. Et pour cela, tous les moyens sont bons, on va le voir. Les dadas s'expriment aussi bien par l'écriture, par le théâtre, par la sculpture, la peinture. Et ce qu'ils développent particulièrement, c'est aussi la performance. Et ça, c'est totalement inédit. C'est-à-dire que dada, c'est vraiment l'art total. Ça va être une œuvre d'art présentée lors d'une scène de théâtre, avec des chants, avec des chorégraphies particulières. Bref, le but du jeu, c'est vraiment de bousculer les codes établis. Et ce qui est très intéressant, et ce qu'il faut retenir ici, c'est que les artistes s'intéressent pas finalement au produit lui-même, à l'œuvre d'art elle-même, mais au processus qui va faire de l'œuvre ce qu'elle est. Alors généralement, c'est un processus qui va faire d'un objet trivial et anodin une œuvre d'art. On va le voir par la suite. La grande caractéristique également de ce mouvement, c'est qu'il touche toute l'Europe. En fait, il y a plusieurs foyers européens, le foyer le plus emblématique au départ, c'est Zurich. À Zurich, en fait, les artistes se réunissent dans une sorte de café littéraire et artistique, le cabaret Voltaire, et s'y retrouvent donc des écrivains, Hugo Ball, Tristan Tzara, que j'ai évoqué tout à l'heure, des artistes également, Jean Harp, par exemple, qu'on abordera également tout à l'heure. Et alors, dans ce cabaret Voltaire, il y a toute une série de performances qui sont données par ces artistes. Alors, en voilà une brève description de Jean Harp. Donc là, c'est la cérémonie dada par excellence. Donc voici ce qu'il écrit. « Nous sommes en train de mener un grand sabbat. Les gens autour de nous crient, rient et gesticulent. Nous répondons par des soupirs d'amour, des salves de hoquet, des poésies, des wawa et des miaou de brutistes moyenâgeux. Zara fait sauter son cul comme le ventre d'une danseuse orientale. » Donc en fait, c'est vraiment un joyeux bordel. Et il y a cette volonté très forte chez ces intellectuels et chez ces artistes de faire table rase du passé et de n'avoir aucun respect par rapport à ce passé. Il y a vraiment cette volonté de casser tous les codes de la tradition artistique, de la tradition intellectuelle. C'est vraiment une sorte de sursaut identitaire par rapport à tout ce qu'a été cette barbarie de la Première Guerre mondiale. Donc le groupe Dada a un nom un peu étonnant de prime abord. En fait, c'est un nom qui doit tout au hasard. Alors pour la petite histoire, le nom aurait été dégoté en mettant un coupe-papier, un marque-page dans un dictionnaire et on serait tombé sur le mot Dada. Et puis il y avait cette consonance aussi très puérile, très amusante qui a plu à ces artistes. Alors Hugo Ball, encore lui, nous raconte justement la genèse de ce mouvement. Donc je le cite. Dada a son origine dans le dictionnaire. C'est terriblement simple. En français, cela signifie « cheval de bois ». En allemand, « va te faire, au revoir, à la prochaine ». En roumain, « oui, vraiment, vous avez raison, c'est ça, d'accord, vraiment, on s'en occupe », etc. C'est un mot international. Seulement un mot. Et ce mot, comme mouvement. C'est simplement terrible. Si on en a fait une tendance de l'art, cela signifie qu'on peut prévoir des complications. Psychologie dada, littérature dada, bourgeois dada, et vous, très honoré poète, qui avez toujours fait de la poésie avec des mots, mais jamais avec le mot même. La guerre mondiale dada est pas de fin. La révolution dada est pas de commencement. Dada, vous, les amis, qui faites aussi de la poésie, très chers évangélistes, dada Tzara, dada Eisenbeck, dada M. Dada, dada Dada, dada U, dada Tsa, comment atteindre la félicité éternelle en disant dada? Comment devient-on célèbre? En disant dada, avec un geste noble et des manières raffinées, jusqu'à la folie, jusqu'à l'évanouissement. Comment peut-on se débarrasser de tout ce qui est anguille et journalier, de tout ce qui est l'aimable et l'adorable, de tout ce qui est moralité, animalité, préciosité, en disant dada? Dada, c'est l'âme du monde, dada, c'est le grand truc, dada, c'est le meilleur savon au lait de lys du monde. Alors, parmi ces artistes, alors oui, bon, encore un exemple de papier dada. En fait, dans les revues, dans les manifestes, il y a toujours ce jeu sur les typographies. Donc là, j'avais pris cet exemple-là. Rien à voir avec la mise en page habituelle des revues, des journaux ou des manifestes. Alors, voilà, le premier artiste que je voulais aborder, c'est Jean Harp. C'est un artiste qui naît en 1887 et qui meurt en 1966. C'est un peintre et un sculpteur, en fait. Moi, je me suis intéressée ici à ces sculptures en bois, où en fait, il assemble des morceaux de bois pour donner des sens à des formes un peu féeriques, un peu oniriques. Et en fait, chez Harpe, le hasard règne en maître. Il n'y a pas de dictée qui l'incite à réaliser telle ou telle œuvre finie. Vraiment, l'œuvre d'art obéit au hasard. Donc cette œuvre-là s'intitule « Oiseau dans un aquarium ». Elle est conservée à New York. Puis je voulais vous montrer également celle-ci, « Concrétion humaine sans coupe », qui est conservée également aux États-Unis, à San Francisco. Et finalement, on frôle l'abstraction. Chez Harpe, c'est vraiment une caractéristique. Il y a toujours ces formes très, très douces, très ovoïdes. Ça, c'est vraiment emblématique. À Berlin également, il y a un foyer dada. Disons que les dadaïstes de Berlin sont beaucoup plus politisés. Ils sont profondément anti-bourgeois, anti-prussiens. Ils sont résolument contre également l'établissement de la République de Weimar. Et parmi les artistes dada de Berlin, il y a John Hertzfeld. Il ne faut pas se fier au nom, c'est un Allemand. John Hertzfeld va beaucoup travailler par collage et par photomontage. John Hertzfeld, c'est quelqu'un d'extrêmement politisé, d'extrêmement impliqué. Et en fait, il va réaliser ses photomontages à partir de photographies, de coupures de presse, de caractères typographiques également. Et ces photomontages vont être généralement extrêmement acerbes, extrêmement satiriques vis-à-vis de la politique allemande de l'époque. Bon, bah, là, en l'occurrence, c'est la montée du nazisme. On est en 1935, donc Hitler est déjà au pouvoir. Et en fait, dans ce photomontage, tout est une critique du régime mis en place par Hitler. Donc on reconnaît le portrait d'Hitler à l'arrière-plan, on reconnaît les croix gammées également qui timbrent le mur du fond, et on a cette famille qui engloutit des tas de ferrailles et des tas de choses étonnantes. Donc par le photomontage, on a l'intrusion de l'absurdité, l'intrusion de l'onirisme, mais en même temps un onirisme un peu inquiétant. Et ça, c'est vraiment très propre à Hertzfeld. Alors, autre artiste allemand qui, lui aussi, prise beaucoup de photomontage, c'est Raoul Hausmann. Raoul Hausmann, c'est un peintre qui naît en 1886. Il meurt en 1971. Il est originaire d'Autriche. Et en fait, il va avoir un rôle très, très important dans ce mouvement dada, d'abord à Zurich, et puis par la suite à Berlin. Et en fait, Raoul Hausmann, pour la petite histoire, revendique l'origine de l'invention du photomontage. Alors là, dans le critique d'art qui est conservé à Londres, eh bien, on reconnaît justement tous ces caractères typographiques, ces images découpées au hasard dans des revues pour former du coup un critique d'art assez inquiétant et assez patibulaire. Autre œuvre d'Hausmann, ABCD. Bon, là, je l'ai pris parce qu'en fait, il y a l'autoportrait d'Hausmann avec dans les dents les lettres ABCD qui donnent le titre à cette œuvre-là. Et là aussi, c'est une succession de collages inattendus. On a un billet de banque, on a des caractères typographiques, on a également dans le bas du collage une gravure tirée d'un livre d'anatomie. En fait, c'est un examen gynécologique. Donc, il y a tout et n'importe quoi pour donner une œuvre déroutante et étonnante. Kurt Schwitters, on l'a évoqué la dernière fois. Il y a une dame qui me posait une question sur cet artiste. Kurt Schwitters, en fait, c'est une personnalité un peu à part. Donc, Kurt Schwitters, c'est donc un artiste allemand. Et il est totalement dadaïste dans son esprit, il affectionne le tout et n'importe quoi, il affectionne l'absurdité, mais les tentatives qu'il va faire pour intégrer le mouvement vont se solder par des échecs. Donc en fait, il évolue un peu en marge des dadas. Et en fait, la grande caractéristique de Schwitters, ce sont les collages autour d'un concept, le Merz. Alors le Merz, c'est un mot inventé toute pièce, là encore c'est un mot qui doit son origine au hasard, et en fait Schwitters va glaner des objets, des collages, et va les assembler dans des compositions qu'on va voir tout à l'heure. Coach Schwitters, bien, allez. Donc voilà, et alors dans cette logique de la récupération, dans cette logique du hasard, là encore c'est en lien avec la Première Guerre mondiale. Ultime petite blague de l'ordinateur, bref. Donc là encore, cette politique de la récupération, elle est en lien avec la Première Guerre mondiale. Et alors j'ai trouvé ce fragment de texte de Schwitters, donc il explique en fait sa méthode, et il écrit Comme le pays était ruiné, par économie, je pris ce qui me tombait sous la main. On peut aussi crier avec des ordures, et c'est ce que je fis. En les collant et les clouant ensemble, il fallait construire du neuf avec des décombres. Alors là, une des œuvres les plus connues de Schwitters, c'est Das und Bild. Et donc on voit bien justement qu'il assemble des choses très hétéroclites. Il y a évidemment encore des fragments de revues, des fragments d'images glanés ça et là, mais il intègre également des éléments manufacturés, et généralement des éléments manufacturés qui ne sont que des rebuts. Donc il y a toute cette problématique de la récupération qui se met en place avec Schwitters et qui est très intéressante. Là aussi, à nouveau, Merzbild, donc on est là encore dans le même processus artistique, il intègre à la fois des papiers collés et à la fois des objets manufacturés. Et puis l'autre grande œuvre emblématique de Schwitters, c'est le Merzbau, alors la construction de Merz, littéralement. Et ça, c'est assez intéressant. En fait, c'est une œuvre au départ débutée dans son atelier. On est en 1919. Et en fait, par la suite, toute l'œuvre va se propager dans sa demeure. Et en fait, c'est une œuvre protéiforme. Alors, il y a à la fois des espèces d'architecture étrange, mais il y a aussi des collages. Et c'est une sorte de journal intime concret, matériel de son œuvre. Bon, mais là encore, Kurt Schwitters, c'est vraiment une personnalité à part. J'ai choisi d'en parler parce que c'est un personnage intéressant et puis parce qu'on l'avait évoqué la dernière fois. Mais ce n'est pas précisément un artiste dada. Max Ernst. Alors, Max Ernst, c'est un artiste qui naît en 1891, non, je ne touche plus, en 1976. Et à l'instar de Schwitters, à l'instar d'Haussmann, d'Hertzfeld, il utilise le collage, mais de façon beaucoup plus léchée. Autant Hertzfeld et Haussmann choisissaient de laisser volontairement des traces de colle, il y avait un côté un peu improvisé dans leurs œuvres, autant Max Ernst, lui, va effectivement procéder par collage, mais par la suite, il va photographier ces collages. Donc, tout le caractère laborieux de cette mise en œuvre est effacé et on a quelque chose de très léché. Ernst, c'est un artiste qui a été associé à la fois au dadaïsme et à la fois au surréalisme. Bon, alors d'ailleurs, on pourrait déjà voir ici qu'il préfigure le surréalisme dans la mesure où il y a une référence au domaine du rêve, au domaine de l'onirisme. Néanmoins, là, Ernst est encore pleinement dans le réel. Et ce collage, c'est un collage intitulé « Le rossignol chinois ». Donc on a ce côté très onirique avec l'éventail, avec l'œil, avec les mains qui esquissent une sorte de chorégraphie. Mais en même temps, il y a toujours cette allusion au réel qui est très présente puisque le corps de ce personnage, en fait, c'est une bombe. Donc on sent, là encore, toute cette influence, ce traumatisme de la Première Guerre mondiale. Autre œuvre de Ernst, ce sont des collages, là encore, hein, une semaine de bonté. Là aussi, donc, il intègre des éléments qui rendent inquiétante la scène. Il y a cette femme donc, qui a été positionnée ici, et puis il y a ces deux personnages patibulaires qui sont de part et d'autre de l'homme ligoté, et en fait ces deux personnages, leur visage a été remplacé par des sculptures qui évoquent l'Antiquité. Donc toujours cette intrusion de l'absurde et du bizarre qui est vraiment une constante à cette époque chez Max Ernst. Marcel Duchamp. Alors Marcel Duchamp, c'est un artiste intéressant. Il est né en 1887, il meurt en 1968. Là aussi, c'est un artiste qui a été associé avec les dadas. C'est un état d'esprit totalement dada. Néanmoins, il revendique son autonomie, il revendique son indépendance. Donc il faut retenir chez Duchamp que c'est vraiment une personnalité à part. Bon, Duchamp est né dans une famille d'artistes, hein. Ses frères sont également peintres, tous participent aux avant-gardes de l'époque. Bon, nu descendant dans un escalier est assez emblématique à cet égard, dans la mesure où il emprunte à la fois au cubisme et à la fois au futurisme. En fait, c'est une femme nue dont le mouvement est décomposé. Ça évoque les photogrammes du XIXe siècle où tous les mouvements de personnages étaient décomposés. C'est une toile, évidemment, qui a été incomprise par la critique à l'époque, qui a été violemment conspuée lors du Salon d'automne de 1912, puis lors de l'Armory Show à New York, qui était une grande messe artistique en 1913. La trajectoire artistique de Duchamp, elle est extrêmement brève. grosso modo, à la fin des années 20, Duchamp ne participe que épisodiquement à la scène artistique. Là, ce qu'on va retenir de Duchamp, c'est toutes les œuvres réalisées, en fait, entre, grosso modo, on va dire, dans le premier quart du XXe siècle. La route bicyclette. La route bicyclette, j'en avais parlé lors de la première séance. En fait, ici, c'est l'exemple type du ready-made. Alors, le ready-made, en fait, c'est un néologisme forgé par Duchamp. En fait, c'est le choix, le parti pris de l'artiste de prendre un objet manufacturé, un objet du quotidien, un objet banal, un objet trivial, et de le transformer à peine pour en faire une œuvre d'art. C'est ça, évidemment, qui va choquer le public de l'époque. Et là, en l'occurrence, Duchamp choisit de prendre une roue de bicyclette, donc un objet très, très banal, et de le ficher dans un tabouret. Et du coup, cette assemblage un peu étrange devient œuvre d'art. Donc c'est ce truchement qui va être profondément vilipendé par la critique de l'époque. Autre ready-made, donc sans doute le plus fameux, c'est Fontaine. En fait, c'est un urinoir. Donc c'est vraiment l'objet le plus trivial, le plus vulgaire, érigé au rang d'œuvre d'art. Érigé au rang d'œuvre d'art parce que Duchamp va signer l'objet, Hermout, un pseudonyme, va le dater, 1917, et va le présenter tel quel lors de l'exposition. Alors il y a néanmoins une métamorphose, l'urinoir est présenté couché, donc le sens de l'objet est un peu modifié, est un peu métamorphosé, néanmoins ça reste un urinoir, et évidemment ça va être extrêmement mal perçu à l'époque. Alors, j'ai choisi de vous présenter ça parce que là, on est dans l'action iconoclaste par excellence. D'abord parce que Duchamp s'attaque à la représentation la plus fameuse, la plus connue et reconnue de l'histoire de l'art occidental, la Joconde de Léonard de Vinci. Donc déjà, il s'attaque à une œuvre mythique et il la désacralise. Il désacralise ce côté inviolable de l'œuvre d'art. Il la désacralise en affublant la Joconde d'une moustache, premier écueil, et il la désacralise en choisissant pour titre ce calembour, elle a chaud au cul. Donc forcément, la critique et le public de l'époque ont été horrifiés par cette attaque en règle contre la tradition artistique. Autre artiste, Francis Picabia. Alors Francis Picabia, à l'instar de Duchamp, il a une période cubiste, mais à l'instar de Duchamp, c'est également un artiste hors norme qui revendique son indépendance et son autonomie. Et Francis Picabia, tout comme Duchamp, c'est l'incarnation même de l'iconoclasme. D'abord parce qu'il va rompre avec l'image traditionnelle, donc en se tournant vers l'abstraction. Bon, ben là, on a un exemple de cet apport de toutes ces avant-gardes que sont le cubisme et l'abstraction, New York, réalisé en 1913. Et puis, c'est un artiste iconoclaste également, dans la mesure où, même s'il fréquente ces avant-gardes, il se garde le choix, il se garde le luxe de les critiquer. Il n'hésite pas à les fustiger. Et j'ai notamment pris un extrait d'un texte qu'il écrit, et en fait, dans ce texte-là, il critique de façon assez virulente le cubisme. Alors, je le cite. Donc là encore, c'est toujours très, très théâtral et très rentre-dedans. « Les cubistes veulent couvrir Dada de neige. Ça vous étonne, mais c'est ainsi. Ils veulent vider la neige de leur pipe pour recouvrir Dada. Tu en es sûr ? Parfaitement. Les faits sont révélés par des bouches grotesques. Ils pensent que Dada peut les empêcher de pratiquer ce commerce odieux. Vendre de l'art très cher. L'art vaut plus cher que le saucisson, plus cher que les femmes, plus cher que tout. L'art est visible comme Dieu. L'art est un produit pharmaceutique pour imbéciles. Les tables tournent grâce à l'esprit. Les tableaux et autres œuvres d'art sont comme les tables coffre-fort. L'esprit est dedans et devient de plus en plus génial, suivant les prix des salles de vente. Comédie. Comédie, 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 mes chers amis. Les marchands n'aiment pas la peinture, ils connaissent le mystère de l'esprit. Achetez les reproductions des autographes. Ne soyez donc pas snob. Vous ne serez pas moins intelligent parce que le voisin possédera une chose semblable à la vôtre. Plus de chures de mouches sur les murs. Il y en aura tout de même, évidemment, mais un peu moins. Dada, bien certainement, va être de plus en plus détesté, son coupe-fil lui permettant de couper les processions en chantant « Viens, poupoule !» Quel sacrilège ! Le cubisme représente la disette des idées. Ils ont cubé les tableaux des primitifs et les sculptures nègres, cubé les violons, cubé les guitares, cubé les journaux illustrés, cubé la merde et les profils de jeunes filles. Maintenant, il faut cuber l'argent. Dada, lui, ne veut rien. rien, rien, rien. Il fait quelque chose pour que le public dise rien, 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 rien. Nous ne comprenons rien. Les dadaïstes ne sont rien, rien, rien. Bien certainement, ils n'arriveront à rien, rien, rien. Donc ça, c'est un manifeste qui lit lors du Salon des Indépendants en 1920. Et donc, il faut vraiment prendre en compte tout cet aspect théâtral. Tous ces artistes dada, ce sont des orateurs qui jouent et qui surjouent le texte, évidemment. Alors, Francis Picabia va beaucoup travailler sur la mécanique. C'est quelque chose qu'il fascine. Autant Duchamp est fasciné par la mécanique et va s'en servir pour en faire des ready-made, autant Picabia, lui, va donner un côté très, très onirique et très étrange. En fait, il va être en quelque sorte une sorte de chorégraphe mécanique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fréquent dans ces œuvres-là. Bon, là, j'ai choisi de vous montrer « Fille née sans mère ». C'est un tableau qui est conservé à Édimbourg. Et justement, on a toute une sorte de chorégraphie mécanique. Évidemment aussi, alors, bon, peut-être pas forcément dans cette œuvre-là, mais il y a toujours, des sous-entendus sexuels et érotiques dans l'œuvre de Picabia. Et généralement, ces chorégraphies mécaniques miment l'acte sexuel proprement dit. Danse de Saint-Guy. Alors là, il va encore plus loin dans l'iconoclasme. C'est une œuvre assez emblématique de la dérision chère au dada. C'est un tableau où la toile a disparu. En fait, il n'y a plus que le cadre. Que retient Picabia ici? Eh bien, il retient les ficelles qui attachent des petites étiquettes. Et sur ces étiquettes, il y a le titre, il y a la date, il y a la signature. Donc on garde les éléments emblématiques de l'œuvre d'art, sauf qu'il n'y a plus d'œuvre d'art. Donc ça montre bien cette volonté de singer la création artistique en utilisant les codes les plus élémentaires. Et surtout, ça montre bien la volonté de moquer la création artistique. Alors, autre moquerie, c'est l'œil cacodilate. C'est une œuvre qui est également conservée au Centre Pompidou à Paris. Elle est réalisée en 1921. Et là aussi, le parti pris est assez similaire. En fait, au départ, Picabia place l'œil, place le titre, place la signature. Il se représente également, il intègre une photographie. Et en fait, il demande à ses amis, à ses connaissances, de signer la toile. Et c'est cette avalanche de signatures qui va créer la toile qu'est l'œil cacodilate d'aujourd'hui. Donc là encore, on se moque de tous les codes élémentaires de l'œuvre d'art. Autre artiste, Manet qu'on rattache à la fois au dadaïsme et à la fois au surréalisme. Là, je vous présente Porte-manteau, c'est une photographie qui est réalisée en 1920. Il y a toujours cette intrusion du bizarre et de l'étrange. En fait, on a une femme nue qui se cache derrière une tête de mannequin, une tête et un buste de mannequin avec cette position des bras. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc, la femme est nue, il y a une représentation assez franche, assez crue, et la tête du mannequin prend un air outré et est totalement choquée. Donc c'est cette contradiction qui est assez amusante et qui introduit l'étrange dans cette œuvre-là. Autre œuvre, c'est le rayogramme. En fait, le rayogramme, c'est une technique qui va être extrêmement prisée par Manet. En fait, il pose des objets sur un papier photosensible et en fait, l'empreinte des objets marque ce papier photosensible. Et donc, on a des représentations tout à fait étranges, des sortes de radiographies d'objets. Et Manet va réaliser un certain nombre de rayogrammes durant ses années 20 et ses années 30. Là, en fait, il s'agit d'un pupitre de musique. Alors, pour conclure, pour Dada, c'est un mouvement qui fait la part belle donc au non-art, qui va déstructurer totalement les codes artistiques, et c'est un mouvement qui va préfigurer en quelque sorte le surréalisme. Et effectivement, le surréalisme a souvent été présenté comme la suite logique des recherches et des transgressions amorcées par Dada. Et de fait, il y a certains dadaïstes qui côtoient les surréalistes. En fait, il faut être beaucoup plus nuancé. Dada, c'est un mouvement subversif, c'est un mouvement qui ne naît pas par hasard, c'est vraiment un mouvement qui est fils de son temps. Tous ces artistes-là, donc je l'ai dit tout à l'heure, ont été extrêmement traumatisés par la Première Guerre mondiale, par la barbarie, par l'absurdité de ce conflit. Donc, Dada, c'est un mouvement qui porte une certaine violence, provoquée justement par ce conflit. Le surréalisme, lui, va s'éloigner un peu de cette violence et de cette virulence, et va faire la part belle au rêve. Le surréalisme veut donner à l'inconscient, au rêve, une place importante, une place prépondérante même, que les dadas ne reconnaissent pas. Donc ça, c'est vraiment une différence très, très marquée entre les deux mouvements. D'autre part, le surréalisme, je l'ai dit, veut vraiment dépasser cette révolution du monde contemporain et veut dépasser ce négativisme, ce nihilisme dada. Et puis, il va y avoir aussi des divergences politiques, hein, il va y avoir vraiment des dissidences entre dadaïstes et surréalistes, et notamment, on va le voir, entre André Breton et Tristan Tzara. Donc en 1922, André Breton, justement, rompt avec Tzara et veut donner une orientation nouvelle à ce mouvement dada qu'il estime en perdition. Et en 1924, est fondé le Bureau des recherches surréalistes à Paris. Et puis 1924, c'est aussi une date très importante, puisque paraît le manifeste du surréalisme. Donc c'est un mouvement plus politisé, dans le sens où la plupart de ses protagonistes sont communistes. Et la plupart des divergences, la plupart des dissidences qui apparaîtront dans le mouvement surréaliste, généralement seront le fruit des divergences politiques. André Breton, de ce point de vue-là, est un chef d'orchestre assez autoritaire. Donc le surréalisme, au départ, c'est le fait d'écrivains qui vont faire la part belle aux rêves. Hein, donc le but, c'est de libérer la créativité et de court-circuiter en quelque sorte tout ce qui fait entrave à cette créativité. Donc ils vont priser l'interprétation des rêves, l'interprétation des songes, ils vont priser l'écriture automatique, les cadavres exquis. Enfin bref, il y a tout un jeu sur la parole qui va se mettre en place. C'est pas un jeu qui apparaît au hasard. Hein. Au-delà, il y a une influence d'auteurs comme Rimbaud, comme Lautréamont, qui avaient déjà en leur temps fait la part belle aux rêves. Il y a l'influence d'Apollinaire également, qui est d'ailleurs l'inventeur du néologisme surréalisme. Et en fait, les artistes vont également être des protagonistes très importants de ce mouvement surréaliste. Et tout à l'heure, j'évoquais les procédés d'écriture comme l'écriture automatique. D'un point de vue artistique, je peux évoquer par exemple Max Ernst, qui lui va travailler sur le frottage. Le frottage, c'est vraiment l'équivalent pictural de cette écriture automatique. C'est un procédé qui est découvert totalement par hasard. Ernst est attablé à la table d'une auberge et puis observe une tache sur le sol. Et de cette tâche émergent des images. Et en fait, il va s'amuser à frotter l'image sur un papier pour après reproduire le motif et interpréter ce motif-là. Donc toute une réflexion très libre sur, au départ, le jeu du hasard. Et ça va être vraiment un outillage très prisé par Max Ernst. Tout à l'heure, j'évoquais André Breton, je disais que c'était vraiment le protagoniste important du surréalisme, et je voudrais juste citer la définition du surréalisme donnée par André Breton. Le surréalisme, selon lui, est un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Donc une exigence, la libération totale de la pensée, que ce soit à l'écrit ou que ce soit devant l'œuvre d'art proprement dite, il y a une liberté totale. On court-circuite tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut entraver cette libre pensée. Ça, c'est vraiment une caractéristique fondamentale. Alors un des grands précurseurs du surréalisme, c'est Giorgio de Chirico. C'est un artiste d'origine italienne qui naît en 1888, qui étudie en Grèce, qui étudie en Allemagne et qui va être profondément marqué par l'architecture des villes italiennes. Et il va mettre en œuvre des peintures très, très énigmatiques qui assemblent justement des scènes un peu étranges et surtout des architectures immenses, parfois disproportionnées, qui donnent un côté très... très inquiétant, parfois très sordide à ses œuvres. C'est Apollinaire qui, à propos de ces œuvres-là, parlait de peinture métaphysique, parce que c'était des peintures qui n'étaient pas forcément compréhensibles, intelligibles pour nous autres pauvres petits humains du réel. Et Mystère et mélancolie d'une rue est assez emblématique de ce point de vue-là. C'est une œuvre donc écrasée par ces architectures immenses. Il y a ce clair-obscur, enfin cette ombre plutôt, qui donne un côté très, très dramatique, très inquiétant à la scène. Et puis on a ces silhouettes, cette petite fille toute seule, et puis cette silhouette à l'arrière-plan qui arrive, grandissante. Donc on a un côté très inquiétant, parfois très glauque, hein, dans les œuvres de Quirico. Et ça va être vraiment une influence prépondérante pour les surréalistes. Bon, pour la petite histoire, par la suite, il va s'orienter vers une peinture beaucoup plus classique et beaucoup plus académique. Il va, en quelque sorte, renoncer à cette peinture métaphysique, voire même il va carrément la renier. Et c'est paradoxal parce que c'est à cette époque-là, justement, que les surréalistes s'intéressent à lui. Alors, j'évoquais tout à l'heure Max Ernst. Je vais l'évoquer à nouveau. Là, on a une œuvre qui s'intitule « La puberté proche » ou « Les Pléiades ». Et en fait, c'est tout ce jeu sur le hasard et sur les détails glanés par-ci, par-là. Là, il a récupéré la photographie d'une femme nue. Et en fait, au départ, cette femme nue, elle était allongée à la manière d'une odalisque. Et en fait, il va changer la position. Et en la plaçant dans cette espèce de fond bleu qui évoque un ciel, il y a un côté tout à fait étonnant, comme si cette femme, finalement, était en lévitation. Donc, c'est l'intrusion de l'étrange. Alors qu'au départ, c'était vraiment une photographie tout à fait banale, dans une posture vue et revue dans la tradition artistique. Oedipus Rex, là aussi, c'est une œuvre assez emblématique de Ernst, dans la mesure où il y a cet assemblage hétéroclite d'objets, de personnages, qui donne un côté très, très étrange à la toile. Ben, déjà, on a ces deux têtes d'oiseaux qui émergent. D'ailleurs, il y a une tête d'oiseau qui a des cornes, donc c'est un peu étonnant. Et puis, il y a cette main immense, disproportionnée, qui s'extirpe de cette fenêtre beaucoup trop petite et qui tient dans sa main une espèce de noire balette, une super arme naturelle. Et donc, justement, le fait de confectionner une toile avec tous ces détails qui n'ont pas vraiment de lien entre eux, eh ben, ça donne justement cette dimension surréaliste aux œuvres de Ernst. On est comme dans un rêve. On a cette juxtaposition de détails très différents, très incohérents, et c'est ce qui va donner justement le caractère étrange, le caractère bizarre, voire même inquiétant, cher à Ernst. L'Europe après la pluie. Alors ça, c'est un tableau qui est conservé aux États-Unis. C'est un tableau qui est peint durant la Seconde Guerre mondiale, entre 1940 et 1942. Et en fait, c'est le principe du décalcomanie. En fait, le principe du décalcomanie, c'est une feuille blanche qu'on presse sur une autre feuille en huile de peinture, et donc ça donne des formes. Et à partir de ce terreau-là, eh bien, l'artiste va laisser libre cours à son imagination. Et dans ce type d'œuvre, ce qui est très intéressant et ce qui est très inquiétant, c'est cette espèce donc de concrétion de peinture retravaillée, et on a un côté très inquiétant. Et il y a toujours cette intrusion également de personnages mi-homme, mi-bête, de personnages protéiformes. On voit donc cette espèce d'homme-oiseau qui se dresse dans cette architecture-là, et là encore, hein, ça donne un côté un peu effrayant à l'œuvre de Max Ernst. Autre artiste, André Masson. Si j'ai choisi de parler d'André Masson, c'est que, en fait, c'est un artiste qui s'inspire de l'écriture automatique. En fait, il fait des dessins à la plume, et ces dessins à la plume sont des dessins spontanés. En fait, c'est comme si la plume était le sismographe de l'inconscient, en quelque sorte. Et donc, on a des œuvres très, très libres, du coup, puisque l'artiste les dessine sans entrave, sans plan préconçu. Soleil furieux en est un bon exemple. C'est une œuvre qui est réalisée en 1925 et qui est conservée au MoMA à New York. Et puis, autre œuvre d'André Masson, c'est Bataille de poissons, qui est également conservée au MoMA, qui n'est pas peinte en 1925, je me suis trompée, mais en 1926. Et là aussi, c'est toujours cette démarche automatique, sauf qu'il intègre un élément nouveau, c'est le sable. Toute cette espèce de... c'est vrai que la qualité n'est pas géniale. Ces espèces d'étendues grises et marron, c'est du sable, en fait. Et là aussi, en fait, il y a un côté très hasardeux, très automatique. Masson fait couler le sable sur la toile, sur une toile qui a été imbibée de colle. Et donc, le jet de sable va donner lieu à des formes qui ne sont pas le fait de l'artiste, mais qui sont le fait du hasard. toute cette démarche-là, qui donc laisse la part belle au hasard, ça va beaucoup influencer toute l'avant-garde américaine des années 40, des années 50. Et je pense notamment à Jackson Pollock, qu'on évoquera la prochaine fois. Jackson Pollock, en quelques mots, c'est un artiste américain qui met en place le concept de l'action painting. Pardonnez-moi pour l'accent anglais horrible. Et l'action painting, en fait, c'est un Pollock étend des toiles immenses sur le sol et il déambule avec un seau de peinture troué. Et en fait, l'œuvre est littéralement le fruit de la chorégraphie de Pollock. Donc là encore, toute une œuvre due au hasard. Bon, je ferme la parenthèse, on l'évoquera plus longuement la prochaine fois. Salvador Dali. Alors Salvador Dali, c'est un artiste qui va fréquenter les surréalistes, évidemment. C'est un artiste au départ qui a une période cubiste. Salvador Dali, c'est un peintre espagnol, il naît en 1904 et au départ, il va être extrêmement influencé par les avant-gardes et notamment par le cubisme. Bon, l'autoportrait cubiste en est un bon exemple, hein. Donc on retrouve cette déstructuration de la forme, cette déstructuration de l'espace, ces tons de bleu, de gris, de marron. Par la suite, il a une période réaliste. Néanmoins, il y a quand même cette influence, je pense à Picasso à cette époque. Bon, là, c'est une œuvre qui s'appelle « Femme couchée », et l'œuvre à laquelle je pense de Picasso, c'est « La course ». Et on retrouve ces personnages féminins très monumentaux, très solides, très, très matériels. Une période réaliste, qui, sur la fin, tire vers quelque chose de plus onirique. Et déjà, une toile comme celle-ci, « Personnage à une fenêtre », préfigure ses œuvres surréalistes. Pourquoi il y a quelque chose d'étrange dans cette toile-là? Bon, Dali prend une femme accoudée à une fenêtre, c'est sa sœur en l'occurrence, et l'étrangeté de cette œuvre-là, c'est que, à la différence des portraits habituels, eh bien, cette femme ne nous regarde pas, elle est de dos. Donc il y a déjà cette posture qui est assez inhabituelle. Et puis, dans cette œuvre-là, dans la posture de cette jeune femme très alanguie, très abandonnée, il y a aussi une espèce d'érotisme sous-jacent qui va être une constante chez Dali. Baigneuse, c'est un tableau qui est conservé, alors Saint-Pétersbourg, écrit comme ça en fait, c'est aux États-Unis, hein. c'est pas la ville de Russie, c'est une ville en Floride. Et il y a un musée qui est entièrement consacré à Dali, et dans lequel donc est conservée cette toile réalisée en 1928. Et déjà là, donc on s'extirpe totalement du réalisme et on observe des représentations qui sont inquiétantes et qui sont très, très dérangeantes aussi. Bon, cette baigneuse-là, en fait, c'est un personnage assez méconnaissable, hein. il n'y a pas de tête, il n'y a pas de sexe précis, même s'il y a quand même quelques allusions au sexe féminin, et puis il y a cette main immense, avec ce doigt flottant, ça évoque la masturbation. Bon, Dali a un rapport à la sexualité assez particulier, il va commenter abondamment certaines de ses œuvres, hein, donc il se fait vraiment l'exégète hein, de ces messages subliminaux hein, et notamment de cet érotisme sous-jacent à nombre de ses œuvres. Toutes ces œuvres oniriques, à l'époque, suscitent des réactions assez vives, des réactions même parfois très désagréables. Dali en est conscient, il le revendique, il s'en défend, je le cite, « Ce qui est sûr, c'est que les gens s'agglutinent devant mes tableaux comme des abeilles sur le miel, et cela, bien qu'ils y trouvent des choses risibles ou stupides, qu'ils ne peuvent pourtant pas s'empêcher de regarder. Pourquoi ? Parce que le fait poétique les arrête, les émeut inconsciemment, en dépit des protestations violentes que leur culture et leur intellect leur soufflent. » À partir de 1929, Dali est à Paris. Il travaille avec Luis Buñuel à la réalisation d'Un chien andalou, qui est un film qui fait la part belle à l'imaginaire et à la violence. Un film d'ailleurs qui va susciter des réactions particulièrement dures. Bon, il y a des scènes assez particulières, hein, notamment cette scène fameuse où l'œil de cette femme est coupé par un couteau. C'est une scène assez gore, mais c'est une scène très emblématique d'un chien andalou. Bon, alors, la critique et le public de l'époque sont un peu effarés. Par contre, les surréalistes adorent. Et d'ailleurs, le scénario d'un chien andalou sera publié dans la revue Surréaliste. Le grand masturbateur, c'est un tableau qui est conservé à Madrid. Il est peint en 1929. Donc en fait, on a une immense tête qui occupe l'espace de la toile. C'est un autoportrait. Et en fait, cette œuvre-là, elle est très emblématique des œuvres de Dali dans le sens où il choisit de prendre des motifs protéiformes. Rien n'est arrêté. Toujours, les choses sont en devenir. Là, on a cette tête, et puis on voit dans la partie droite qu'émerge le corps d'une femme qui se précipite vers le corps d'un homme. Donc là encore, hein, cette allusion érotique, cette allusion sexuelle. Et puis, ce qui est très caractéristique de Dali également, ce sont les détails qui, a priori, n'ont rien à voir avec le sujet. Donc il y a par exemple cette immense sauterelle sur laquelle il y a un monceau de fourmis, donc ça évoque quelque chose de glauque, de morbide, et puis tous ces petits détails, ces personnages dans la partie inférieure, ces cailloux également qui somment le sommet de la tête de Dali. Bref, tout un tas de détails hétéroclites, un peu comme chez Max Ernst, mais la différence avec Max Ernst, pardon, c'est que Dali est extrêmement minutieux, est extrêmement précis dans sa façon de peindre. Donc il y a vraiment un côté très déroutant. On peut rester des heures et des heures devant les toiles de Dali. On trouvera des tonnes de détails qui nous dépassent et qu'on n'arrive pas forcément à comprendre et à lier de prime abord. Les plaisirs illuminés, bah là encore, c'est une œuvre emblématique de cette succession de scénettes. Toujours un côté violent, notamment au centre, dans la partie inférieure, hein, cette femme avec les mains ensanglantées, qui a l'air d'un véritable zombie et qui est entraînée par cet homme. Et puis on voit dans la partie gauche ces poings qui serrent un couteau ensanglanté, donc sans doute les scènes sont liées. Voilà, un côté très inquiétant, un côté très étrange dans cette œuvre-là. Tout à l'heure, je disais que Dali était quelqu'un de très minutieux, très attentif aux détails. Il fait des toiles qui parfois sont très, très petites. Cette toile, en l'occurrence, elle fait grosso modo 23 cm sur 34 cm. Donc c'est vraiment des formats minuscules. Et du coup, c'est d'autant plus brillant de sa part de réaliser cette multitude de détails. Lion, cheval, dormeuse invisible, c'est un tableau qui est réalisé en 1930 et qui est conservé au Centre Pompidou. Et en fait, c'est un tableau qui explore tout ce processus d'images multiples qui relève donc de l'activité paranoïaque critique forgée par Dali. Alors l'activité paranoïaque critique, c'est, et là je reprends les termes de Dali, un délire d'interprétation appliqué non seulement à l'art mais aussi à la réalité devenue multiple. En fait, tous les fantasmes, tous les rêves les plus fous du peintre sont canalisés pour forger des représentations dont les significations, dont les sens sont multiples et sont différents. Et là, en l'occurrence, la perception, elle est totalement bouleversée, totalement faussée. Il y a une mise en doute qui est instillée par ces motifs très différents. On voit la métamorphose d'une barque en un corps de femme, puis on a un corps de cheval, on a cette chevelure qui devient crinière, bref, tous nos repères sont bouleversés. Pour la petite histoire, c'est une œuvre qui a été exposée à Paris à l'occasion de la projection de l'âge d'or de Buñuel, et c'est une œuvre qui a failli être lacérée par le public. Donc ça témoigne bien de l'incompréhension du public et de cette tentation iconoclaste. À chaque fois qu'il y a une œuvre qui choque, il y a toujours cette tentative de la détruire. Et ça rejoint les cours que j'avais donnés précédemment. La persistance de la mémoire, c'est un tableau qui est conservé au MoMA, qui est réalisé en 1931. Et là aussi, bah, l'étrangeté, en fait, elle est rendue par cette mollesse des montres qui évoque le temps élastique. Et puis on retrouve également l'autoportrait de Dali au centre de la composition. Pour finir avec Dali, j'avais choisi cette œuvre-là, l'énigme de Guillaume Tell. Bon, Dali, c'est un personnage qui a des relations assez problématiques et assez complexes avec sa famille. Et là, en l'occurrence, c'est le conflit avec le père. Ça illustre tout à fait les liens tortueux qu'il entretenait avec son père. Le père qui est ici représenté sous les traits de Lénine. Donc on se doute que ça n'a pas plu aux surréalistes, hein, qui étaient violemment communistes. Et là, Lénine, en fait, berce un nourrisson Le tableau s'intitule « L'énigme de Guillaume Tell », donc dans la légende, hein, le fils a des pommes sur la tête, et là, en l'occurrence, le nourrisson, il a une espèce de côtelette sur la tête. Donc ça montre bien les désirs un peu cannibaliques du père sur le fils, et cette espèce de tension permanente entre les deux personnages. Évidemment, donc, le choix de prendre la figure emblématique du communisme de l'époque, hein, Lénine, ça va être incompris par les surréalistes, et l'œuvre de Dali va être très conspuée par les artistes et par les intellectuels surréalistes qui vont carrément vouloir détruire, hein, cette toile. Et par la suite, Dali va s'éloigner du surréalisme, justement du fait de ces divergences politiques. René Magritte, c'est un peintre originaire de Belgique, il est né en 1898, il meurt en 1967. Il va être très influencé par l'œuvre de Quirico, qui va l'inciter à avoir un vocabulaire très réaliste, justement pour rehausser quelque part cette étrangeté et ce bizarre. René Magritte, c'est un peintre qui se joue des différents sens et des différentes interprétations de la toile. Bon, là, par exemple, c'est une œuvre assez emblématique, Madame Récamier de David. C'est une œuvre qui fait référence au tableau de David, Madame Récamier, qui est conservée au Louvre. Sauf qu'ici, il ne choisit pas de représenter le personnage de Madame Récamier, mais son tombeau. Donc on a un sens qui est un peu étonnant et un peu déroutant, surtout que la toile de David est quand même une des toiles les plus connues de cet artiste. Le jeu sur les sens, le jeu sur les interprétations, il est aussi très sensible ici, dans la trahison des images. Ceci n'est pas une pipe, or on voit une pipe. Donc ça déroute. Et d'ailleurs Magritte, à propos de cette œuvre-là, écrivait « La fameuse pipe, me l'a-t-on assez reproché ? Et pourtant, pouvez-vous la bourrer, la pipe ? Non, n'est-ce pas ? Elle n'est qu'une représentation. Donc si j'avais écrit sous mon tableau « Ceci est une pipe », j'aurais menti. » Donc voilà, donc toujours ce jeu sur les images et sur les sens, et au-delà sur l'aspect illusoire de la représentation. Les amants. Ça, c'est une figure qui est très récurrente dans l'œuvre de Magritte, les personnages voilés. Bon, pour la petite histoire, sa mère serait morte noyée et y aurait eu cette image qui aurait choqué Magritte de la mère recouverte d'un drap mouillé. Et ça pourrait expliquer donc le fait que ce motif soit récurrent dans son œuvre. Et là, bah, justement, on a un côté très morbide et très inquiétant. Ça évoque ces amants camouflés, ces amants cachés, ça évoque des personnes enveloppées dans des linceuls. Donc ça donne un côté très, très funèbre à la toile. La clé des champs, c'est un tableau qui est peint en 1936 et qui est conservé à Madrid. Et là encore, il y a ce jeu sur les représentations, puisqu'on a donc une fenêtre et on voit donc ce paysage à travers cette fenêtre cassée, un paysage campagnard, un paysage rural. Et en fait, on remarque que dans la partie inférieure, eh bien, les bris de la fenêtre représentent le paysage. Donc finalement, c'est comme si la représentation se décomposait. Quel est le vrai, quel est le faux, quelle est la part de l'illusion? Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très prisé par Magritte. Autre exemple, l'appel des cimes. Ça, c'est un tableau qui a été peint quelques années plus tard, en 1943. Il est conservé dans une collection particulière. Et il y a aussi ce jeu sur le réel, puisqu'on a donc ce chevalet qui nous indique qu'il s'agit d'une toile représentant le paysage montagnard. Mais si le chevalet n'avait pas été là, l'illusion aurait été totale. Et autre jeu sur les représentations, quand on observe bien ces montagnes, en fait, on voit un aigle aux ailes déployées. On ne voit pas très bien. La qualité n'est pas géniale. En fait, la tête de l'aigle, elle est vraiment au centre de la toile. Voilà. Au niveau de l'ordinateur, la qualité est vraiment très bonne. Hein. Je suis désolée. Bon, bref. Autre artiste, Yves Tanguy. Yves Tanguy, c'est un artiste qui peint des œuvres souvent de petit ou de moyen format. Et en fait, la grande caractéristique de ses œuvres, ce sont ses paysages désertés, minéraux, aux teintes bleues, grises. En fait, il y a un côté très délavé, mais sans être péjoratif, hein, mais il y a un côté très délavé dans les œuvres de Tanguy. J'ai malheureusement peu trouvé d'œuvres de bonne qualité, donc je vous présente celle-ci de façon tout à fait arbitraire. C'est La rapidité du sommeil. C'est un tableau qui est peint en 1945 et qui est conservé à Chicago. Et donc c'est un tableau vraiment caractéristique de son œuvre, avec l'immensité d'un paysage dans des tons de bleu, de gris, et ses formes très irrégulières et très douces. Ça fait penser, quand on voit des œuvres de Tanguy, ça fait penser à tous les objets, que ce soit des galets, des fragments de bouteilles, qui sont charriés par les flots et qui prennent des formes totalement étonnantes. Ça, c'est vraiment un langage qui pourrait caractériser l'œuvre d'Yves Tanguy. Alors, autre artiste, c'est Hans Bellmer. Hans Bellmer, c'est un artiste né en 1902. Il meurt en 1975. C'est un artiste d'origine allemande qui va travailler sur une figure récurrente, celle de la poupée. Il a cette idée dans les années 30, à l'occasion d'une représentation des contes d'Hoffmann, et il y a ce personnage de la poupée Olympia, dont s'éprend un jeune homme, et ça va être une véritable révélation pour Bellmer, qui va réaliser des mises en scène, des photographies de poupées contorsionnées dans des postures les plus diverses. Là, l'œuvre que je vous montre, elle est conservée au Centre Pompidou. Il y a également tout un tas de photographies de ces poupées dans des postures étranges, inquiétantes, voire très glauques. Il y a vraiment quelque chose de très déroutant et de très dérangeant qui émane des œuvres de Bellmer. Le fait de choisir la poupée, qui est par définition un jouet, et un jouet du domaine de l'enfance, ça trouble justement d'autant plus les représentations, parce que c'est comme s'il soumettait ce jouet, qui est donc lié à l'enfance, à la pureté, à l'innocence, c'est comme s'il prenait cette représentation et qu'il l'attordait selon ses fantasmes, et généralement ce sont des fantasmes qui sont très cauchemardesques et très, très inquiétants. Alors là encore, j'aurais voulu vous montrer des photos de ces mises en scène. Alors vous pourrez regarder sur le net. J'ai pas trouvé d'images de bonne qualité. J'avais des toutes petites images, donc ça rendait rien. Mais vous verrez, c'est vraiment des mises en scène très, très déroutantes et très dérangeantes. Man Ray, que j'évoquais tout à l'heure, qui va évidemment être très lié au surréaliste. En fait, je terminerai ce cours avec cette œuvre-là. C'est le violon d'Ingres. C'est le corps de Kiki de Montparnasse ici qui est mis en scène. Bon, le violon d'Ingres, ça évoque les nuits de Ingres, ça évoque les baigneuses du bain turc notamment, ces corps très, très sensuels, tout en courbe et tout en arabesque. Et en fait, sur cette photo-là, Man Ray va dessiner deux ouïes sur le corps de Kiki de Montparnasse, et du coup, le corps est métamorphosé en violon. Donc, c'est à la fois faire de cette femme un violon, donc on retrouve cette démarche surréaliste qui joue sur les sens et les représentations, mais c'est aussi un clin d'œil à l'expression « violon d'Ingres », et c'est une belle célébration de cet amour, de cette vénération pour Kiki de Montparnasse, qui était la grande muse de ces artistes à l'époque. Le surréalisme, c'est un mouvement, je l'ai dit tout à l'heure, qui va être l'objet de dissensions et de divergences. Et donc, généralement, les artistes que je vous ai montrés vont avoir une période surréaliste, mais ne vont rapidement s'en détacher. Pour conclure, sur ces deux mouvements, que sont Dada et le surréalisme, Dada, on l'a vu, c'est un mouvement très fécond. Les artistes s'attaquent à l'œuvre d'art, s'attaquent à ce mythe du beau et de la création. Il le désacralise, il le décrédibilise aussi, mais c'est profondément libératoire. Libérateur. Libératoire, ça n'existe pas, si. Doute. Fin de journée, fatigue, bref. Bon, bref, c'est profondément libérateur, on va dire ça. Tout est possible. Il s'attaque à la chorégraphie, il s'attaque à la peinture, au dessin, à la sculpture. Ils utilisent toutes les possibilités de la modernité, que ce soit la photographie, le cinéma. Et cet iconoclasme dada n'est pas synonyme de destruction de l'art. Au contraire, il va fondamentalement vivifier l'art et va profondément influencer l'art contemporain. Donc il va radicaliser, révolutionner l'art du XXe siècle. Ça, c'est vraiment très important. Le surréalisme va lui emboîter le pas. On a vu qu'il fallait quand même nuancer les rapports entre les dadaïstes et les surréalistes. C'est des rapports qui sont très conflictuels, en fait, la plupart du temps. Chez les surréalistes, il y a toujours ce goût pour la dérision, pour l'ironie. Il y a aussi et surtout cette place prépondérante du rêve et de l'inconscient. Les surréalistes comme les dadas vont faire la part belle à la création proprement dite. Et donc du coup, avec ces deux mouvements, eh bien désormais la brèche est ouverte. L'œuvre, elle tient tout autant de l'art que du concept. Et ça va être un formidable détonateur pour tous les artistes qui vont suivre. À noter, petite parenthèse et magnifique introduction au cours suivant, la plupart des artistes surréalistes vont immigrer aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale et donc vont profondément vivifier l'art américain de l'époque. Et des artistes comme Jackson Pollock, que j'ai évoqué tout à l'heure, vont être profondément influencés par ces artistes et profondément influencés notamment par les libertés nouvelles prises par ces artistes et notamment la part laissée au hasard, à l'imagination. Voilà, ce sont des artistes qui vont s'émanciper sans contrainte et sans scrupule de la tradition. Une tradition esthétique, tradition intellectuelle, tradition artistique, et cette libération va profondément influencer les artistes américains des années 40 et des années 50. Voilà, j'ai réussi à terminer mon cours avec des images. Je suis pas peu fière.